Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Les béatitudes sont parmi les plus connues des paroles prononcées par Jésus. Mais que signifient-elles? Paul est de retour parmi nous pour nous aider à les comprendre. Actuellement, nous abordons la septième béatitude, que voici.
Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière.
Merci Marie-Claire. Ce texte se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, au verset 10 à 12. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité, Paul. Bonjour.
Merci Ian, et bonjour à tous. Nous avons appris qu'il est possible de subir les épreuves graves, telles la persécution, et pourtant se considérer heureux et béni. Ceci parce que notre véritable bénédiction et bonheur ne dépendent pas de nos circonstances, mais de notre relation avec Jésus. Nous avons aussi appris que, par le biais de cette béatitude, Jésus avertit et prépare ses disciples. Il ne leur fait pas de promesses d'une vie facile, prospère et paisible. Non. Au contraire, il leur annonce que, du fait de leur foi en lui, ils risquent de subir l'opposition. Cependant, malgré cette persécution, le disciple reste béni, et ceci parce que le royaume de Dieu lui appartient. Autrement dit, le croyant appartient à Jésus, le véritable roi divin. Jésus garantit notre sécurité éternelle, et les bénédictions spirituelles que nous recevons en lui sont inébranlables. Nos persécuteurs ne peuvent pas nous en priver. Voilà pourquoi le chrétien éprouvé peut se considérer heureux et béni.
Merci Paul pour ce bref résumé. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Je voudrais me pencher davantage sur le verset qui nous exhorte. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. L'une des raisons pour laquelle nous pouvons nous considérer heureux et bénis, même dans l'épreuve, c'est parce que nous avons une récompense magnifique qui nous attend dans les cieux.
Quelle est la nature de cette récompense?
Jésus ne le précise pas. Cependant, à la lumière du Nouveau Testament entier, nous pouvons conclure qu'il s'agit de ce qu'on appelle notre espérance éternelle.
Et quelle est notre espérance éternelle? Rappelez-le-nous, s'il vous plaît.
Oui, c'est la promesse que Jésus reviendra pour faire toute chose nouvelle. Notre espérance éternelle consiste en des éléments divers. D'abord, nous ressusciterons de la mort et nous aurons un corps qui conviendra pour la vie éternelle et la nouvelle création. Ces corps ne souffriront d'aucune maladie ni infirmité. Ils ne vieilliront pas. De même, en ce corps, nous n'aurons plus le désir de commettre le péché. Puis, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Dieu et l'humanité rachetée par Christ vivront en parfaite communion et harmonie. Nous verrons Dieu tel qu'il est, et nous l'adorerons et le servirons, sans les distractions et les obstacles présents dans ce monde. Dans la nouvelle création, il régnera une justice et une paix parfaite. Nous vivrons en harmonie, en sécurité, et nous ne manquerons de rien. Tout être, humain ou démonique, qui répand le mal, n'aura pas de place dans cette nouvelle création. Tout malfaiteur qui ne connaît pas Christ et tout esprit maléfique seront condamnés à l'enfer. L'apôtre Jean a eu le privilège de recevoir des visions nous donnant un petit aperçu de la nouvelle création. Voici un extrait de ces visions qui existe tout particulièrement pour apporter de l'espoir aux croyants persécutés. Il s'agit du livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 1 à 5.
Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu.
Merci. J'aime bien le verset qui nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ».
C'est vrai, Ian. Il n'y aura plus de larmes dans la vie éternelle, car il n'y aura plus de raison de pleurer. Il est vrai que ceux et celles qui vivent la persécution versent beaucoup de larmes, car leur détresse est grande. Cependant, puisque Jésus nous donne cette espérance nouvelle, nous avons l'assurance que toutes nos larmes cesseront un jour. Nos persécuteurs ne trouveront pas de place dans la nouvelle création, à moins qu'ils ne se repentent de leurs mauvais agissements.
Paul, Jésus parle au sujet du disciple persécuté en termes de récompense. Pouvons-nous dire que ces personnes-là qui sont persécutées auront plus de récompenses dans les cieux que les chrétiens qui n'ont pas eu à souffrir de cette manière?
Voici une question importante à laquelle il est difficile de donner une réponse. D'abord, je voudrais insister que tout véritable chrétien jouira de l'espérance éternelle dont je viens de parler. Cette espérance est l'héritage de tout véritable enfant de Dieu, et c'est un don que nous recevons par la grâce et non pas par les œuvres. Tout chrétien jouira de la résurrection et aura un corps nouveau. Tout chrétien jouira de la nouvelle création. Tout chrétien verra Dieu tel qu'il est. Et on dit ceci, une lecture attentive du Nouveau Testament laisse suggérer que des récompenses différentes seront accordées ou non selon certains critères de fidélité, de service et de sainteté. Cependant, il n'est pas possible de dire clairement en quoi ces récompenses consisteront exactement. Personnellement, je préfère dire que la certitude de notre espérance éternelle aide tout chrétien éprouvé à persévérer et à demeurer fidèle dans la foi. Que notre épreuve soit la persécution, la maladie, la pauvreté, tous les trois ou autres, Jésus oriente notre regard vers l'éternité et vers notre espérance dans le but de fortifier notre foi et notre endurance dans l'épreuve. L'idée de gagner une course, une médaille, aide l'athlète à endurer les heures d'entraînement, la discipline et les privations nécessaires pour gagner. De la même manière, la certitude de la résurrection à la vie éternelle aide le croyant à persévérer à travers toutes les difficultés de la vie. Comme dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, au chapitre 4, les versets 16 et 17, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. »
Et l'apôtre Paul a été très persécuté, me semble-t-il.
C'est exact, Ian. Il a enduré plusieurs périodes d'emprisonnement pour sa foi, ainsi qu'une tentative de lapidation, par exemple. Et pourtant, Paul peut dire que ces épreuves, qui paraissent sévères à nos yeux, sont passagères et légères.
C'est surprenant. Comment pouvait-il dire une chose pareille?
C'est parce qu'il a été saisi par la gloire de l'espérance éternelle qu'il avait en Christ. Il évoque les souffrances de son corps, mais il affirme qu'il peut persévérer sans perdre de courage, parce que cette espérance merveilleuse de notre récompense éternelle renouvelle ses forces pour la vie et le ministère. Si nous voulons retrouver le courage de persévérer, malgré les épreuves que nous vivons, nous devons régulièrement se souvenir de notre espérance éternelle et méditer la gloire de l'héritage que Dieu a mis en réserve pour nous.
Merci. Paul sera de retour la prochaine fois pour poursuivre ses réflexions sur cette dernière béatitude. À présent, le moment est venu pour une courte méditation biblique dans le livre du prophète Ésaïe. André est de retour pour nous faire part de ses réflexions. Mais d'abord, Marie-Claire va lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, les versets 1 à 3.
Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur.
Merci et bonjour à tous. Pour la troisième fois, je me penche sur ces versets et aujourd'hui je vais aborder la phrase suivante. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Les flammes d'un incendie sont très dangereuses. Il faut même être très prudent avec les feux allumés lorsqu'on fait la cuisine. Ceux qui se font brûler par inadvertance témoignent de la douleur endurée et ils portent encore des cicatrices. Comment Dieu, par la bouche du prophète, peut-il alors déclarer que son peuple marchera dans le feu sans se brûler? Dans la Bible, la notion du feu est souvent une image du jugement de Dieu contre le péché, une illustration du châtiment divin. Cependant, selon la nature de la matière exposée au feu, celle-ci sera soit détruite, soit purifiée. Le bois, par exemple, sera réduit en cendres, donc détruit. Par contre, les métaux, lorsqu'ils passent par le feu, deviennent plus purs. Ainsi, si Dieu affirme que son peuple passera par le feu sans être brûlé, c'est une façon d'annoncer que lorsque Dieu corrige son peuple, ce n'est pas pour le détruire, mais pour le purifier, pour qu'il progresse dans la sainteté. Vu ainsi et vu bibliquement, les épreuves de la vie entre les mains d'un Dieu miséricordieux peuvent nous façonner dans le but de nous faire des personnes meilleures, des personnes qui ressemblent davantage à Jésus-Christ. Lorsque nous passons par une épreuve douloureuse, nous ne devons pas en conclure que Dieu veut nous abandonner ou nous anéantir. Non, loin de là, Dieu est avec nous, même quand cela fait mal, et il est comme le potier qui fera de l'argile un beau vase. Les épreuves contribuent à notre purification, à notre sanctification et à prouver l'authenticité de notre foi. Citons, pour conclure, la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 1, les versets 6 et 7. « Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui, pourtant, disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. »
Merci André pour ce rappel important. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour conclure cette courte série. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.